Merci de rester avec nous dans le magazine des églises protestantes en Provence, où je reçois aujourd'hui le professeur Alain Delay, formé à l'école biblique de Jérusalem, docteur en théologie et enseignant à l'université catholique de l'Ouest, d'abord en littérature biblique, puis dans l'enseignement des mystiques, des religions comme l'hindouisme, le bouddhisme. Le professeur Delay a publié une quinzaine d'ouvrages dans lesquels, au fond, il fait découvrir une sagesse sans frontières à l'écoute des grandes figures spirituelles qui peuvent éclairer nos chemins de vie. Et le 1er avril dernier, dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne aixoise, Alain Delay a donné une conférence au temple protestant d'Aix intitulée « Entre résistance et acceptation » chez Eti Hillesum et Dietrich Bonhoeffer. Tous deux victimes des nazis en 1943 à 1945, deux personnalités attachantes et marquantes qui demeurent pour nous encore aujourd'hui des sources d'inspiration et de méditation. Nous avons donc aussi invité aujourd'hui Yves Bridonneau, aixois depuis quelques années, et qui est le correspondant régional de cette association des Amis d'Eti Hillesum.
Voix protestante, Christian Daven, Dialogue RCF.
Alain Delay et Yves Bridonneau, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Merci.
Alors, Alain Delay, je le disais à l'instant, vous êtes au fond un infatigable artisan d'un dialogue sans frontières entre les plus grands sages et mystiques de par le monde, cherchant au fil de vos nombreux ouvrages une concordance reliant les uns aux autres. Alors, expliquez-nous un peu tout ça. Qui sont ces maîtres de sagesse? Quel est leur enseignement fondamental? Et pourquoi chercher entre eux une concordance? C'est une vaste question, on va essayer d'y répondre
brièvement,
le plus concentrément possible.
Oui, de fait, j'ai publié un livre qui s'appelle « Sagesse concordante » donc, et qui répond un peu à la question que vous posez. Et dans cet exposé un peu de diverses sagesses, André Comte-Sponville, qui a fait la préface de ce livre, essayait de dire un peu comment reconnaître les sages. C'était un peu là. Les sages, disait-il, sont à la fois nombreux et très rares. Enfin, au moins rares. Il est rare qu'on en rencontre un en chair et en os. Et de fait, c'est assez difficile, mais il donne quelques critères pour le faire, pour les reconnaître. Il dit en particulier, ce sont des êtres à la fois pacifiés et libérés. Ils sont imparfaits, tous les sages le sont, mais ils le reconnaissent. Et l'essentiel de leur enseignement, on peut dire, ne réside pas tellement dans les doctrines ou dans les idées qu'ils professent, qu'on peut trouver un peu partout, mais dans les paroles justes qu'ils disent et qui peuvent vraiment nous éclairer, des paroles qui sont pleines de lucidité, de courage et qui peuvent nous aider à avancer dans la vie.
Vous pouvez nous donner quelques exemples alors de ces sages que vous avez, avec lesquels vous avez cheminé quand même?
Alors, disons, dans les premiers que j'ai étudiés de près, hein, j'en ai en effet étudié pas mal, les premiers c'était, il y avait trois Indiens, Krishnamurti, Prajnampad et Vimalataka, une femme, et la quatrième dans ce livre dont je vous parlais, donc c'était Eti Hillesum. Donc, qui est dans un contexte culturel tout à fait différent,
oui.
Déployer des idées vraiment très proches, un message très proche des trois autres.
Voilà. En quelques mots, l'enseignement que l'on trouve auprès de ces sages, ce serait quoi?
L'enseignement qu'on trouve auprès de ces sages, comment dire? Je dirais que c'est un enseignement unificateur, hein. C'est-à-dire que quelle que soit la culture à travers laquelle dans laquelle ils se situent, eh bien, on sent que ce sont des gens qui sont apaisants et qui nous amènent en quelque sorte à une tolérance et à un apaisement intérieur et à une tolérance à l'égard de tous. Voilà.
Alors, dans votre dernier livre qui est paru en 2018, oui. que j'ai là sous les yeux, Petit traité des quatre plénitudes,
oui.
là vous arrivez, on pourrait dire, un petit peu au summum de ce que vous recherchez, c'est-à-dire essayer oui. de proposer une spiritualité un peu universelle dans laquelle mmh. des thèmes communs se retrouvent d'une religion à une autre. Et vous parlez de ces quatre plénitudes, l'attention, la confiance, l'offrande, la conscience, mmh. et vous donnez la parole à beaucoup, beaucoup de figures spirituelles. De sages pour nous aider sur ces chemins un petit peu de recherche, si j'ai bien compris le but du livre. Mais peut-être vous pouvez l'expliciter un peu, quelle est la visée exacte oui. du livre.
La visée du livre, en fait, c'est de mettre en contact avec des paroles de sages et des paroles qui sont porteuses non seulement de sens, mais porteuses d'énergie. Et il y a un sage indien qui est assez connu, au moins dans les milieux indiens, qui s'appelle Nisargadatta, et qui disait qu'il voulait planter dans le cœur de ses disciples des paroles comme ça, pour qu'elles fructifient, pour qu'elles fleurissent, qu'elles fructifient. Et il disait, mais même un sage, même quand il est parti, quand il est mort et tout ça, les paroles demeurent. Et ces paroles sont encore génératrices réellement de paix, de force, d'amour. Et donc le but, la visée de ce livre, c'est précisément de rapporter un certain nombre de paroles de sages de divers horizons qui sont capables de réaliser cet exploit dont parle Nisargadatta, qui est de faire fleurir et fructifier dans le cœur des auditeurs des... voilà.
Et alors dans la tradition chrétienne, je voudrais dire, puisque nous sommes sur une radio oui. chrétienne, quelles sont ces figures de sages pour vous ?
Alors dans la tradition chrétienne, évidemment, il y en a beaucoup, on peut pas en faire le tour. Quelques-uns, ça pourrait commencer avec les pères de l'Église,
oui.
Avec des gens comme Origène, Clément d'Alexandrie, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, etc., qui ont des paroles sublimes, hein, si on veut les...
Tout à fait.
Et toi, qui est l'au-delà de tout, hein, disait Grégoire de Nazianze en parlant de Dieu. Bon, mais ensuite, évidemment, il y a tout un tas de... Moi, personnellement, disons, j'ai beaucoup puisé chez les auteurs carmélitains, chez Thérèse d'Avila, chez Jean de la Croix, chez Thérèse de Lisieux.
Hein. Vous avez fait une thèse, je crois, de docteur oui. en théologie sur Saint Jean de la Croix.
Voilà, j'ai fait la foi chez Saint Jean de la Croix. Et Saint Jean de la Croix est certainement un des plus grands poètes de la tradition espagnole et de la tradition mystique. Et ses poèmes... on peut les apprendre par cœur et se les réciter sans cesse, sont toujours porteurs réellement d'énergie et de lumière.
Oui. Voilà, je rappelle le titre de votre livre, Petit traité des quatre plénitudes, aux éditions Acarias, l'originel, et on trouvera là-dedans effectivement cette diversité des spiritualités qui peut être riche de sens pour nous aujourd'hui. On fait une première pause musicale, si vous voulez bien, et on va écouter donc un extrait de musique indienne, qui est joué par une chanteuse qui s'appelle Lakshmi Santra et qui, dans un album, Charanam, on va écouter un extrait de cette musique. Ce sont des mantras, en fait, qui sont chantés.
Voix protestante, Christian Daven.
Alain Delaye, vous êtes aussi membre des Amis, de cette association des Amis d'Eti Ilesum, une association dont Yves Bridonneau, notre second invité, est le correspondant régional pour la région Provence. Votre conférence du 1er avril dernier à Aix a associé la figure d'Eti Ilesum, cette jeune femme juive hollandaise déportée en 1943, à 29 ans à Auschwitz, où elle va mourir. vous l'avez associée à celle de Dietrich Bonhoeffer, pasteur et théologien protestant allemand, qui a été accusé de haute trahison comme conjuré de l'attentat préparé contre Hitler et exécuté par les nazis, pendu exactement par les nazis à 39 ans en 1945. Ces deux personnalités, au fond très différentes quand même, témoignent à travers leur vie et leur mort tragique, à travers leurs écrits, leurs correspondances, d'une spiritualité personnelle particulière, on pourrait dire une spiritualité entre l'ombre et la lumière à travers l'épreuve qu'ils ont vécue. Alors on va les présenter tous les deux maintenant. Yves Bridonneau, vous allez nous parler de d'Eti Lessoum, résumer en quelques mots la vie, son destin tragique et le cœur de son témoignage.
Eti Lessoum est une jeune fille hollandaise, jeune femme qui a 26 ans en 1939. Son père est directeur du lycée de Deventer, une ville intellectuelle du centre de la Hollande, et elle arrive à Amsterdam pour suivre des études de droit. Mais pour une jeune juive en 1939, commencer des études, c'est de toute façon avoir la certitude de ne jamais les finir, à cause de la barbarie nazie. Elle rencontre là un psychologue, disons, qui devient un petit peu son directeur de conscience. Et tout de suite, au début, le psychologue lui demande d'écrire son journal. Et au début de son journal, on trouve une phrase qui est un petit peu le fil directeur de ce qui va suivre quand elle écrit « Au fond de moi, il y a un puits. Au fond de ce puits, il y a Dieu. Et mon seul travail dans la vie, c'est de dégager ce qui empêche Dieu de sortir. » Elle découvre donc la spiritualité, elle découvre le Dieu intérieur. C'est une fille qui auparavant était assez libertine, elle avait plusieurs amants, elle les collectionnait un peu, mais au fur et à mesure qu'elle découvre ce Dieu intérieur, elle change et elle va devenir l'écrivaine d'un journal passionnant que la Hollande a mis à peu près 40 ans à découvrir après sa mort, puisque son journal est sorti en 1981 et a eu tout de suite un retentissement mondial.
Alain Delay, vous avez aussi sorti un livre sur Eti Lessoum, donc je le signale quand même aux éditions Almaté, Mystique sans frontières, Eti Lessoum. Donc si on veut se renseigner, on peut lire aussi le journal d'Eti Lessoum dans les collections
tout à fait,
folio,
tout à
fait. En bouquin de poche, voilà. Alors maintenant, en face de cela, nous avons Dietrich Bonhoeffer. Rappelez-nous aussi rapidement, Alain Delay, son témoignage, au fond, dans le protestantisme allemand puis européen à l'époque.
Eh bien, Dietrich est un Allemand anti-nazi, c'est un pasteur luthérien, un théologien qui est confronté à la mort de Dieu dans un monde sécularisé, et aussi un chrétien qui s'est voulu témoin de Jésus-Christ parmi ses frères. C'est l'inscription qui est gravée sur sa tombe, Flossenbürg, là où il a été exécuté. Et il apparaît au sein de la tourmente nazie comme une personnalité d'une haute qualité à la fois spirituelle, politique et mystique. Il est né dans une bourgeoisie, une famille bourgeoise ouverte et cultivée. Il y a vécu une enfance heureuse et en a reçu les valeurs intellectuelles et morales d'un protestantisme éclairé. À 16 ans, il décide de devenir pasteur et à partir de là, il va mener de 1927 en 1933, un cursus universitaire brillant. Ordonné pasteur en 1931, il s'est engagé à ce moment-là dans le ministère pastoral et il s'est éloigné de la théologie, où pourtant il avait de quoi briller intellectuellement. Il a d'abord été un prédicateur, puis un enseignant, et il s'est impliqué dans la formation spirituelle des futurs pasteurs. Il a, à ce moment-là, une petite période, disons, pacifique, mais très vite, vu le contenu, vu ce qui se passait en Allemagne, son action s'est tournée vers la résistance à l'hitlérisme. Et il a alors rejoint, de 1933 à 1939, l'Église confessante qui se démarquait du christianisme déjudaïsé, nationalisé, des chrétiens allemands qui étaient inféodés au nazisme. Il a été écarté de l'enseignement dès 1936. Son séminaire à Finkenwald a été fermé sur ordre de Himmler. Et là, à partir de 1940, il s'est vu interdit de parole et d'écriture, et il s'est engagé dans une résistance active à l'hitlérisme jusqu'à comploter, donc, pour l'élimination d'Hitler. Il a été arrêté par la Gestapo en avril 1943, emprisonné durant 18 mois à Tegel, puis transféré à Berlin, et là, donc, privé de livres et d'écriture, il a été ensuite expédié à Buchenwald, puis ramené au camp de Flossenbürg, et il est entré dans un silence dont nous n'avons plus le concernant que des témoignages de codétenus, qui mentionnent tous le caractère apaisé et rayonnant de sa personnalité. Il a été pendu sur ordre spécial de Hitler le 9 avril 1945.
Voilà deux vies vraiment qui posent à la fois question, cette question de la résistance, comment est-ce que, même dans une démarche pacifique, qui était quand même celle de Bonhoeffer, on entre en résistance sur quelque chose qui paraît absolument fondamental, tout en acceptant le destin qui est devant nous, qui n'est pas un destin au sens stoïcien, je dirais, mais un destin au sens comment je suis engagé dans la vie, quelle éthique je veux porter pour que ma vie ait un sens, quoi. On va parler de ces questions tout de suite après. On fait une deuxième pause musicale. Et je vous propose d'écouter Alain Delaye, quelqu'un que vous connaissez bien, Jean de la Croix. Il est chanté ici par Pierre Eliane.
Je sais bien moi la source qui jaillit et qui court, mais c'est dans la nuit. Cette source éternelle est enfouie, mais moi je sais bien où elle vit, mais c'est dans la nuit. Je ne sais son origine car elle n'en a point, mais je sais que d'elle toute origine vient, mais c'est dans la nuit. Je sais qu'il n'est nulle chose si belle et que la terre et le ciel boivent en elle, mais c'est dans la nuit.
Voix protestante, Christian Daven.
Voilà, chers amis qui écoutez ce magazine des églises protestantes en Provence sur Radio Dialogue RCF, nous discutons cet après-midi avec Yves Bridonneau, qui est le correspondant régional de l'association ETI ILESUM, et le professeur Alain Delaye, qui nous vient de la région Ouest et qui est professeur à l'Université catholique de l'Ouest. Nous discutons de ETI ILESUM, justement, et de Dietrich Bonhoeffer. Un livre va sortir par M. Alain Delaye bientôt sur ces deux figures qui ont été massacrées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui portent l'une et l'autre un témoignage encore pour nous aujourd'hui dans leur résistance et dans leur acceptation de ce qu'ils vont avoir à traverser comme épreuve.
Tout à fait.
Donc, concernant ces deux personnages, au fond, qu'est-ce que l'on peut dire, avant de voir peut-être comment ça se concrétise pour nous aujourd'hui, quelle a été, au fond, leur perception de ce Dieu qu'on quête toujours, qu'on cherche dans un monde sans Dieu ou dans un monde où il y a trop de Dieu? Pour eux, comment ont-ils noué cette relation avec Dieu? Est-ce qu'on peut le dire en quelques mots?
Oui. Bon, alors peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que les thèmes de la résistance et de l'acceptation sont très présents dans le journal d'ETI ILESUM, mais aussi dans la correspondance finale de Dietrich Bonhoeffer. Donc, et les textes qu'ils ont écrits, quand on les rapproche, alors qu'ils ne se sont pas connus, on est étonné de voir à quel point ils abordent la même attitude et la même relation, ouais, à Dieu. C'est un peu, je dirais, la même vision qu'ils ont, hein, du divin. Et c'est pour ça qu'il était important, je crois, de pouvoir les rapprocher, de pouvoir les confronter. Et ils se dégagent de ce rapprochement des choses absolument étonnantes. Voici par exemple ce que Dietrich dit à son ami Eberhard Bethge, là, c'est en février 1944, et il dit ceci: je me suis souvent demandé où est la limite entre la résistance nécessaire contre le destin et la soumission tout aussi nécessaire. Je crois qu'il nous faut faut faire face au destin aussi résolument que nous devons nous y soumettre en temps voulu. On ne peut parler de direction qu'au-delà de cette double démarche. On ne peut pas déterminer la frontière entre résistance et soumission sur le plan des principes, mais il faut que toutes les deux soient là et toutes deux doivent être assumées résolument, et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons supporter et rendre féconde toute situation. Et pour Dietrich, donc, l'action qu'il doit mener, surtout il a vu ça à la fin, donc, est un combat. Il a bien vu, pour lui, il le dit, il le redit, la vie chrétienne est un combat. Et il en a été d'autant plus persuadé qu'il a été confronté au nazisme, qui est quand même une idéologie nihiliste, une puissance d'anéantissement de l'homme dans ses fondements. Et donc, il est allé lui-même jusqu'à comploter à l'élimination d'Hitler. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a été arrêté et après pendu. Mais en même temps que cette résistance qu'il a exercée au plan politique, au plan spirituel, bien sûr, il a été dans une logique d'acceptation absolument remarquable. Et au cœur et au terme de sa vie, cette acceptation, il utilise d'ailleurs un mot allemand pour la définir, il parle de Ergebung. Ergebung, ça peut se traduire par abandon ou par lâcher prise, hein, mais là, on l'a traduit par soumission, sous-entendu au destin voulu par Dieu.
Alors, Étienne Soum, on vient de le dire, a un cheminement un peu parallèle ou assez proche, au fond, ça fait écho l'un avec l'autre. Alors, vous-même, Yves Bridonneau, vous avez été très marqué par cette lecture d'Étienne Soum, de ses écrits, pour vous-même d'abord.
Oui, tout à fait. On peut dire que, pour moi, personnellement, et pour beaucoup de gens d'Étienne Soum que je connais, elle nous a fait découvrir, elle nous a fait reconstruire notre Lego religieux. Chacun a une spiritualité personnelle et se construit comme il peut. Et je disais que je commençais à trouver le Dieu pharaon, le Dieu grand commandeur, le Dieu parle, commande, règne, qui avait un problème de langage qui n'était plus de, pour moi, qui n'était plus d'actualité, qui n'était plus de notre temps. Et j'ai trouvé chez Étienne Soum la réponse. Dans ce Dieu intérieur qu'elle nourrit, qu'elle fait vivre, qu'elle fait ressortir, jusqu'à se rapprocher d'ailleurs de Simone Veil, qui comme Dietrich Bonhoeffer...
La philosophe
Simone Veil, on retrouve beaucoup de choses de Étienne Soum quand elle dit par exemple qu'au fond de soi, au fond d'elle-même, Dieu écoute Dieu. Simone Veil dit exactement la même chose à la même époque. Et puis après, au bout d'un an et demi, ben, elle se rend compte à sa façon que sa façon de résister, c'est d'aller aider ses frères et ses sœurs dans le camp de Westerbork, qui a rassemblé à peu près en 2 ou 3 ans 100 ou 120 000 juifs qui sont tous partis après pour Auschwitz. Et elle a passé donc le reste de son séjour en vie, je dirais, dans ce camp de Westerbork, jusqu'à, bien entendu, partir elle-même en octobre 1943. Et on croit qu'elle est morte à peu près à Auschwitz 2 mois après. Voilà la façon dont elle a résisté. Pour suivre, dit-elle, le destin de son peuple, même si c'était pas une religieuse juive d'aucune façon.
Est-ce que vous seriez d'accord tous les deux pour dire que le destin dont on parle à chaque fois, ce n'est pas le destin au sens stoïcien du terme, c'est le destin vraiment, enfin me semble-t-il, pris dans le sens que je disais à un moment de l'action, du sens que je donne à ma vie, de l'éthique de vie que je veux promouvoir parmi mes frères humains et mes sœurs humaines.
Tout à fait, tout à fait. Plutôt que de destin, d'ailleurs, il faudrait peut-être parler de destinée.
De destinée,
Là, destinée, on sent qu'il y a une finalité, une dynamique, une providence. Il y a quelque chose. C'est pas quelque chose de hasard. C'est plus un hasard. D'ailleurs, elle le dit elle-même, Étienne. Hein. À partir d'un certain moment, sa vie n'est plus un hasard. Elle est soudée à ce qu'elle appelle un destin, mais en effet, qu'on pourrait appeler une destinée.
Alors, comment on peut aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, dans un monde où il y a plutôt un trop-plein de Dieu, comment est-ce qu'on peut résister ? À quoi faudrait-il résister ? Et en même temps, à quoi consentir pleinement, librement, avec conviction ? Vous avez quelques approches de cette difficile question ?
Ah oui, moi j'en ai, mais peut-être.
Allez-y, monsieur Delaye, allez-y.
Oui, eh bien, écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui, en écoutant un petit peu ce qui se passe et en voyant aussi ce qui se passe, on prend conscience assez rapidement qu'on est confronté à, je dirais, à des puissances. C'est Dietrich qui disait ça aussi, à des puissances malveillantes. Mmh. Hein. Pas comment il faut les appeler, mais il y a dans le monde des puissances malveillantes qui cherchent à nous détruire. Comme au temps de Dietrich et d'Eti, il y en avait qui les ont détruites, d'ailleurs, qui les ont détruites tous les deux. Et Dietrich dit que la vie chrétienne est un combat. Un combat, Eti préciserait, un combat contre la haine. Et le combat de l'amour, finalement. Hein, le combat contre la haine, c'est cela. Et elle cite plusieurs fois dans son journal ce texte de la lettre aux Corinthiens, que vous connaissez bien, et qui dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». C'est un texte fameux qu'elle a lu, qu'elle a relu, qu'elle a médité. Et ce combat, aujourd'hui, a quelque chose de titanesque. On ne s'en rend peut-être pas tout à fait compte, mais il suffit d'écouter, de tous les échos qui nous parviennent. Nous avons un combat à mener, comme eux-mêmes, dans un contexte différent, ont mené leur combat. Et dans ce combat, contre toutes les violences, contre tous les égoïsmes qui se liguent de manière mortifère pour limiter, brider, détruire, eh bien, nous devons nous aussi résister. Et nous ne pouvons pas le faire si nous nous appuyons sur nos propres forces. Et c'est là que, je pense, Eti et Dietrich peuvent nous aider. Il faut nous appuyer sur les forces de Dieu. Dietrich aimait beaucoup l'Ancien Testament. Il parlait de, Yahvé Sabaoth, c'est, le Dieu des combats. Et il faut s'appuyer sur ça.
Merci beaucoup, Alain Delaye, pour tous ces enseignements. On va vous compter parmi nos sages bientôt. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Monsieur Bridonneau, Yves Bridonneau, qui devient petit à petit un bon spécialiste d'Eti Hillesum, mais on peut l'appeler, l'inviter pour des conférences ici ou là. À très bientôt.
Merci.
Merci.